Bonjour Marie-Rolly.
On est ravis de vous recevoir. Vous êtes essayiste, romancière, spécialiste du 18e. Vous êtes également l'auteur de nombreux récits. On pense à Café de la mémoire en 2008, à Souvenirs de la marée basse en 2017 ou encore à East Village Blues l'année dernière. Et ici, on va traverser plusieurs textes, plusieurs écrits, écrits entre 2014 et 2018, qui sont tous parus dans le journal Sud-Ouest, que vous avez ici réuni dans un recueil intitulé Café Vivre, chroniques en passant, tout récemment paru aux éditions du Seuil. Dans ce Café Vivre, on va retrouver tous les éléments qui sont chers à votre œuvre, à vos livres, le voyage, la littérature, le 18e, le goût de l'instant et des cafés, bien sûr, mais aussi une part de l'intime, des fragments, je pense, de vous-même. Tout d'abord, donc ces chroniques, elles sont parues pendant 4 ans dans Sud-Ouest. Comment est née cette collaboration avec Sud-Ouest ?
C'était une suggestion d'Olivier Mauny. Et tout de suite après, j'ai rencontré Yverté. Et Yverté m'a laissé pleine liberté pour que chaque mois, je donne un aperçu de quelque chose qui serait un événement, un moment fort ou même un fragment de paysage. Et bon, la question c'était, est-ce que je peux être libre par rapport à l'actualité? Et j'ai senti que ça lui plaisait que l'actualité soit à la fois là, parce qu'elle y est par moment, mais indirectement. Et moi, c'était mon désir.
Donc vous aviez une complète liberté, aucune contrainte ?
Non. Personnellement, je m'étais posé comme contrainte que mes chroniques suivent quelque chose du temps présent. Mais ce temps présent, souvent, c'est vraiment le temps qu'il fait ou le changement de saison. Et ça, c'est ce que j'ai suivi au plus près, mes sensations et la couleur du temps. Mais en restant très près de ces sensations et du lieu d'où on écrit, c'est évident qu'on croise quelque chose de l'actualité.
Et l'idée du recueil, elle est venue au fur et à mesure de l'écriture des chroniques ou elle est venue vraiment a posteriori ?
Non, a posteriori. Je n'ai pas du tout pensé. Et a posteriori, j'en ai parlé à mon éditeur, Bernard Coman, et lui, tout de suite, a vu un livre. Moi, je ne crois pas que j'avais vraiment tout de suite vu un livre. Je pensais plutôt des feuilles comme ça qui s'éparpillent. Mais maintenant, je suis très contente.
Mais c'est un livre vraiment qui est très cohérent avec tout ce que vous avez écrit auparavant. Justement, donc on parlait dans l'introduction de Café de la mémoire en 2008. Et là, vous intitulez ce recueil Café Vivre, du nom de la première chronique apparue dans Sud-Ouest. Qu'est-ce que les cafés représentent pour vous en tant que personne et en tant qu'écrivain ?
Les cafés, ils représentent d'abord une fascination d'enfance. Et quand j'étais petite, je me promenais dans Arcachon et je voyais les cafés. Et ces cafés, avec les terrasses, les rassemblements de gens jeunes, toute la gaieté qui en émanait à mes yeux, me semblaient des lieux privilégiés. Et plus tard, étudiante, alors là, j'ai fréquenté les cafés de l'intérieur et ça a d'abord été, je crois, des endroits pour faire des rencontres entre amis ou de désir et des endroits de discussion. Les cafés étudiants que je fréquentais, c'était vraiment des endroits où on parlait beaucoup, où on discutait, où on parlait de livres, de films, énormément de cinéma. Donc les cafés, c'est ça d'abord. Mais au fil du temps, ça a été beaucoup des sortes d'abris. Quand on arrive à l'étranger, qu'on ne sait pas tellement où se mettre et qu'on trouve le bon café, celui où on est heureux de revenir le matin. Et par exemple, je me souviens, à Barcelone, il y avait un café que j'adorais et c'était à l'extrémité d'une grande place. Et quand il me voyait sortir de l'hôtel, il commençait à préparer les choses. Et j'arrivais, tout était là. Et ça faisait partie de mon bonheur d'être à Barcelone. Donc les cafés, dans certains voyages ou dans le quotidien de notre existence, je trouve, sont vraiment des lieux, des petites pastilles comme ça de plaisir dont on est sûr.
Et c'est ça ce que vous dites des petites pastilles, des petites capsules. En fait, et ce qui est très représentatif dans ces chroniques, c'est l'instant en fait, c'est l'instantané, le charme de l'instant. En fait, la chronique, est-ce que c'est pas la forme littéraire la plus proche de la pureté de l'instant ?
Mais oui, vous avez raison de dire cela, j'ai jamais pensé. Mais je trouve que... au fur et à mesure que je les écrivais, j'avais un bonheur particulier. J'adorais les écrire. Et après, maintenant que le livre existe, je me dis que oui, que la chronique, surtout sur une petite surface, quelques pages, elle correspond. C'est une sorte de tableautin ou de vignette, et elle correspond parfaitement à cette sorte de temps. Entre parenthèses, c'est pourquoi le café est si bien aussi, parce qu'il permet, dans le déroulement d'une journée, une pause et de regarder autour de soi, de regarder passer les gens aussi, de tout d'un coup se rappeler où on est. Et c'est sûr que la chronique, et elle est comme une sorte de petite photographie en mots de ces instants, de ces moments.
Justement, dans la préface du livre, vous dites, si je peux vous citer, « Café vivre répète au présent l'instant où l'on fait une pause, où l'on s'assoit sous un arbre, à une terrasse, où l'on s'arrête à un carrefour, sur une plage, au milieu du chemin, pour simplement regarder autour de soi. » Cette pause, en fait, elle est nécessaire, non ?
Ah oui, je pense. Je pense que dans une journée très remplie, comme quand même, on en a beaucoup... s'accorder cet arrêt, ce temps un peu contemplatif, c'est donner une bonne respiration à sa journée et plus profondément à son existence peut-être. C'est se souvenir que ça répond à un rythme et que il faut pas vivre à l'étourdi trop.
Et cette idée de pause, c'est aussi l'idée de quelque chose d'éphémère. Et vous avez dit, là c'est dans une interview, vous avez dit « J'aime ce qui n'est pas fait pour durer. Ma vision du monde est liée à ce qui est fugitif. »
Oui, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui est né, je crois, de mes premières visions. C'est-à-dire, je pense que regarder la mer... vous oblige à croire d'abord au fugitif et à croire d'abord au reflet ou à l'insaisissable. Enfin, moi, c'est l'enseignement que j'en ai tiré, sans me le dire, bien sûr. Mm-hmm. Et ensuite, c'est dans ces moments ou dans ces types d'art, par exemple les aquarelles ou la musique, que je me sens le plus à l'aise. Quelque chose qui n'est pas monumental, qui ne vous enferme pas.
Et vous dites l'aquarelle et la peinture, la musique, et vous ne parlez pas de l'écriture, parce que l'écriture, elle vous enferme plus ?
Ah non, mais l'écriture, ça va de soi pour moi.
C'est votre mode de vie ?
Oui, le langage surtout, ouais. C'est mon mode de vie. Oui.
Cette notion de l'éphémère, de l'instant, ça suggère effectivement quelque chose qui peut s'oublier. Je vous cite encore dans la préface à ce recueil, qui est une très très belle préface, qui est vraiment magnifique. Vous dites « Ce qui, au fil des mois, a piqué mon attention, a suscité mon envie d'écrire, relève d'un intérêt purement subjectif. Les êtres, les rencontres, les lectures, les images et les incidents qui m'inspirent et me donnent à rêver n'entrent pas dans un cadre préétabli. Ils participent de moments fugitifs, voués à l'effacement. Ce sont les mêmes principes et les mêmes affinités qui, lorsque je travaille à un roman historique, me font préférer les personnages marginaux aux acteurs de premier plan. » Est-ce que voilà, vous pouvez nous expliquer effectivement cette démarche, notamment à travers vos personnages de roman ?
Oui. Alors, j'ai découvert l'histoire pas par hasard, mais par la littérature. Mmh. Pas directement, pas de manière frontale. C'est en lisant... des mémoires ou des correspondances en promenant dans Bordeaux aussi, que j'ai commencé de penser le passé. Et à force de lire, il y a une imagination qui s'est développée et qui a commencé à bouillonner. Et j'ai eu envie d'écrire des romans. Mais des romans où ce qui n'était pas destiné à s'inscrire dans des livres d'histoire prendrait place. Et donc, c'est toujours... c'est pas des personnages centraux. C'est pas eux qu'on met comme les grands décideurs des événements historiques passés. Et ça me permet aussi de me projeter en eux et de me sentir proche. Je me vois pas écrire quelque chose sur Napoléon, par exemple, directement, en tous les cas. Mais en effet, une lectrice, même si elle a vraiment existé, que j'ai cherché son nom, elle n'était pas faite pour traverser les siècles, quoi. Ou ses deux enfants, avant qu'ils deviennent roi et reine, vraiment. Donc c'est vraiment ça que j'aime dans l'histoire, où des personnages, là je pense beaucoup à la princesse Palatine, des personnages qui ont été un peu refusés. Et Thomas Illyricus.
Donc à travers à la fois vos romans historiques et dans ces chroniques ici, est-ce que finalement vous ne combattez pas l'oubli et donc le temps? Enfin, il y a un rapport au temps qui est très fort dans ces chroniques.
Oui, c'est à la fois des instantanées, vraiment elles sont écrites au présent et dans le moment même où j'assiste à une scène, où je lis un livre, où j'entends une remarque dans la rue. Mais c'est quelque chose à quoi je tiens aussi, c'est combien on est formé, combien notre personnalité, ou notre spontanéité même, est faite de livres lus, de nos livres préférés ou de nos livres récents. Et c'est très naturellement, quand je me promène sur les quais à Bordeaux, que je pense au maréchal de Richelieu. Mais c'est aussi naturel que, par ailleurs, dans le Testament d'Olympe, le maréchal de Richelieu est un personnage important. Et donc, j'ai toute une passion érudite, ce qui fait que j'ai lu énormément sur lui, sa correspondance, j'ai vu sa collection de tissus à la bibliothèque Richelieu. Je sais énormément sur Richelieu, sur le mauvais sujet qu'il était. Mais en même temps, ce savoir, il me plaît parce qu'il s'est fluidifié. Il est devenu une part de moi, et quand je rêvasse, je peux voir en effet le maréchal de Richelieu passer et monter dans son carrosse. Il avait un carrosse qui était aussi un lit, un carrosse-lit, ce qui lui permettait de faire Paris-Bordeaux en dormant ou autre chose. Et il arrivait tout frais. Il était en matière d'hédonisme extrêmement inventif. Donc le maréchal de Richelieu, c'est typique des personnages qui ont eu un certain rôle dans l'histoire, mais personne connaît vraiment le maréchal de Richelieu, vraiment pas. On connaît le cardinal de Richelieu, mais pas le maréchal. Voilà, moi ce qui me plaît, c'est effectivement de m'intéresser au maréchal.
À ceux qui sont effectivement peut-être un peu délaissés,
oubliés. Oui.
Toujours dans cette question du temps, vous avez évoqué dans une récente interview à propos de ces chroniques une oppression du calendrier et de l'agenda.
Oui. Quand je regarde des petits carnets anciens, pas si anciens d'ailleurs, je m'aperçois que j'avais des agendas assez vides et que maintenant ils sont plus pleins. Et je trouve que c'est qu'il faut faire attention à restaurer ces plages de vide dans ces agendas. Parce que, et aussi, cette chose qui a tellement été dite par d'autres, bien sûr, par Virginia Woolf ou Proust, combien notre vraie temporalité est intérieure et elle relève pas des chiffres. Et donc, En écrivant ces chroniques aussi, j'avais un peu le sentiment de calmer l'oppression du calendrier. Parce que tout d'un coup, je vois une petite fenêtre et puis je regardais le paysage. Et ça pouvait être des cascades en Argentine ou bien un coucher de soleil à Nice. Ou, voilà.
Et vous invitez le lecteur à prendre cette pause avec vous.
Voilà, j'avais envie de le faire partager.
Une des choses effectivement très importantes dans ce recueil, c'est la notion de voyage. Vous dites toujours dans la préface, on peut lire dès lors ces chroniques en passant comme un journal de voyage, si l'on croit que chaque matin contient une occasion de départ et une chance d'aventure émotive, intellectuelle, la quête d'une certaine qualité de vibration. Est-ce que vous-même, vous n'incarnez pas en fait une voyageuse? Est-ce que vous ne voyez pas comme une aventurière?
Aventurière, peut-être c'est trop parce que je vois les aventurières sur le mode se jeter en Afrique, au milieu de combats improbables. Donc je me sens plus du côté d'une sérénité et pas dans des risques physiques violents. Mais voyageuse, oui, je me sens vraiment voyageuse. Et c'est une disposition du regard. Et je pense que les lieux où je continue d'aimer être, je pensais à Paris tout à l'heure, c'est des lieux où justement l'attitude voyageuse continue d'être possible. Et où même une longue familiarité n'éteint pas cette curiosité. Et je crois qu'il y a dans toute personne qui se lance dans un voyage, tout d'un coup est beaucoup plus prête à vraiment vivre chaque seconde et à faire des découvertes. Et ce que l'habitude ou la sédentarité finit par étouffer, souvent, c'est, je trouve, ce côté alerte dans le monde. Et ça, c'est une sorte de musique de gaieté qui me prend quand je voyage et que je désire autant que possible poursuivre aussi, même dans les villes que je connais bien.
Vous parlez dans la première chronique, donc Café Vivre, d'une expérience entre dépaysement, parce que la notion de dépaysement aussi, elle est... vous la questionnez à plusieurs reprises dans plusieurs chroniques. Et est-ce que vous pouvez nous raconter l'expérience que vous avez quand vous découvrez tous les noms de cafés français au Japon?
Alors, le Japon, c'est un pays que j'ai découvert il y a 10 ans à peu près. J'y suis allée 7 ou 8 fois, donc assez souvent, mais sans parler la langue. Donc, je reste vraiment étrangère. La première fois où j'y suis allée, j'étais d'abord à Tokyo et pour un cours, et ensuite à Kyoto. Et en me promenant, je regarde les kanji avec comme on regarde des tableaux. Comme quand on est petit, quand on ne sait pas lire, ou quand on est alphabète, on regarde les lettres, on trouve que le M est intéressant, ou le T, comme ça, mais ça ne veut rien dire. Donc je regarde tout comme ça. Et la nuit, c'est vrai, quand ça s'éclaire, c'est sublime. Mais je ne lis pas restaurant, donc je vois un ensemble de formes magnifiques. Ça pourrait être du Michaud. Et puis, petit à petit, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'enseignes écrites en alphabet et dans d'autres alphabets. Et je vois qu'il y avait beaucoup de noms en fait français. Parce que France égale chic ou art de vivre. Donc c'est essentiellement des lieux de beauté, des instituts de beauté ou des coiffeurs et des cafés ou des restaurants. Et alors là, à ma grande surprise, comme je commençais à vraiment regarder, et des hôtels. En particulier des hôtels parce qu'ils ont des love hôtels, qui sont des hôtels de rendez-vous. C'est extrêmement organisé, le Japon. À la fois très, très ritualisé, strict, mais il y a aussi, du coup, dans cette organisation, des lieux spéciaux pour les amours clandestines, Love Hotel. Et ceux-là ont beaucoup des noms français, beaucoup de noms français. Et j'ai vu donc beaucoup de noms de cafés et ça m'a ravi vraiment. Vraiment, c'est donc moi j'aimais beaucoup le bonbon café, mais il y avait aussi le petit mec, plein de choses absolument charmantes. Et Nicolas Bouvier, dans ses chroniques japonaises, et lui aussi il est charmé par ça. Et le premier café où il va, et il n'arrive pas à trouver de chambre d'hôtel, c'est trop cher, ça s'appelle le Café Poème. Et le propriétaire lui dit, si vous ne trouvez pas, restez dormir. Donc il l'enferme là, et Bouvier dort quelque temps au Café Poème. Mais ces mots, ce qui m'a ému, c'est que ces mots qui nous sont familiers, quand on les retrouve pris comme ça dans des kanji qui n'ont aucun sens pour nous, deviennent eux aussi étrangers. Et c'est ce mélange entre... c'est la fausse familiarité. D'ailleurs, eux, ils les utilisent aussi, les Japonais, ils les utilisent aussi, quelquefois, un peu à côté. Par exemple, pour un salon de beauté, il y avait purée pomme. Des choses qui un peu surréelles. Je trouve ça très joli. Ça fait partie justement du côté café poème de tout voyage.
Cette idée du dépaysement, donc on la retrouve dans la chronique intitulée Les deux pôles de Roland Barthes, où vous évoquez les trois mouvements gradués de tout dépaysement selon Barthes, qui sont le voyage, le séjour et la naturalisation. Et lui, il donne une définition de ce qu'il appelle le résident. Il définit le résident homme du séjour, moyen terme entre le voyage, l'état nomade, et la naturalisation, statut d'exilé, comme un touriste qui répète son désir de rester. Est-ce que vous êtes en accord avec cette conception du voyage selon Barthes ? Oui. Parce que lui, pour le coup, c'était pas un grand voyageur.
Non, c'était un homme du séjour.
Ouais.
Il est, oui, c'est intéressant, je trouve. C'est trois catégories : le voyage, le séjour et la naturalisation. Alors, moi, j'aime le voyage. Et justement, ce que Barthes n'aimait pas, c'était l'état nomade. Et il n'avait pas de plaisir particulier à habiter l'hôtel. Je crois qu'il aimait les demeures solides et ancré dans un espace familial. Mais moi, mon imagination, quand je voyage, c'est l'état nomade. Et l'idée de se poser, de repartir. Même si je fais des longs séjours, j'aime cette impression ou ce que je me raconte. Mais Roland Barthes n'était pas du tout un voyageur, mais c'est quelqu'un qui avait habité l'étranger plusieurs fois, puisqu'il a habité, mais comme professionnellement, vous voyez, en Égypte, ou je crois en Roumanie, au Maroc, aux États-Unis, mais pour enseigner. Donc c'est différent, ce type de voyage. Mais je l'aime aussi, ce type de voyage. Vous voyez. Et ça, c'est vrai que c'est plus du séjour. Mais quand je suis là-dedans, même dans un séjour, je garde l'attitude voyageuse. Et la naturalisation, c'est complètement autre chose.
Bien sûr. C'est s'approprier, c'est devenir. C'est
Oui, quelqu'un qui est très intéressant par rapport à ça, c'est Dany Laferrière, avec son dernier livre, L'exil vaut le détour. C'est tout un programme.
C'est vrai. Vous citez d'ailleurs Dany Laferrière dans une de vos chroniques.
Oui, je trouve que c'est un merveilleux voyageur et justement quelqu'un qui est aussi entre la poésie et la prose.
Et donc un autre auteur que vous avez cité et dont vous avez choisi de mettre une citation en exergue, c'est Nicolas Bouvier justement, qui est lui l'incarnation un peu de l'écrivain voyageur absolu.
Oui.
Comment Nicolas Bouvier vous a inspiré en tant qu'écrivain ?
Alors j'ai lu Nicolas Bouvier il y a très longtemps. Et je le lisais un peu pour accompagner mon désir de voyage, voyez. Et puis c'est récemment, vraiment, il y a justement quand j'ai commencé ces chroniques, que j'ai été vraiment frappée par l'ampleur, le grand écrivain qu'il était. Et par beaucoup de réflexions qui ne sont pas nécessairement liées au voyage, qui relèvent d'une philosophie de l'existence. Et ça, ça m'a de plus en plus, et maintenant je le relis souvent, de plus en plus je suis sensible à ça. Il est quelqu'un qui avait une certaine idée de l'existence, justement, de l'existence comme passage, et aussi qui voyait dans le voyage, pas une drogue, mais un moyen de rendre plus aigu et plus vif les sensations et les images et la mémoire. Et ça, c'est vraiment très beau.
Le voyage, ça suggère forcément une notion de liberté, de grande liberté de mouvement, une liberté dont on a tous fait l'expérience d'être privé ces derniers temps. Comment, en tant qu'écrivain, vous l'avez vécu ? Est-ce que ça vous a nourri ? Est-ce que ça vous a été difficile ?
Bon, en tant qu'écrivain, ça ne m'était pas difficile, vous voyez. Mm-hmm. C'est-à-dire ne pas sortir. J'y suis habituée. Encore que je ne reste jamais comme ça, calfeutré, des semaines de suite, pas du tout. Même jamais une journée entière. Mm. Je sors tous les jours. Donc ça ne m'était pas difficile, l'idée de rester chez moi. Ce qui m'a été difficile, c'est le savoir de ce qui se passait au dehors. Mmh. Et ça pesait sur la simple vie circonscrite. Une vie en chambre ne me gêne pas trop. Mais savoir qu'on ne peut pas sortir parce qu'il y a une épidémie qui circule et qu'il y a tous les jours des morts dont on vous annonce les chiffres. Évidemment, ça change l'atmosphère. Donc, je peux pas dire que c'était pénible au sens où ça mm-hmm. m'était pénible de vivre comme ça, parce que je sais vivre comme ça. Mais la totalité du programme, oui, était pénible. Et de sortir aussi. Moi, j'étais à Paris et sur un circuit où passe. Normalement, on passe peu d'ambulances, mais là, il en passait beaucoup. Donc, il y avait l'alarme, la sirène continue des ambulances. Il y avait un truc qu'on ne pouvait pas oublier, ce qui est en train de se passer.
Et est-ce que vous avez particulièrement écrit pendant cette période, ou ça a changé quelque chose à votre rythme de travail ?
Non. Mais j'écris un livre qui n'est pas spécialement gay en ce moment, donc c'était très bien. Je ne crois pas que j'aurais écrit, par exemple, ces chroniques sur ce mm-hmm. mode en passant. Mais il y a aussi... il y avait que... Vous avez vécu la même chose. Les rues entières étaient fermées. Mm. Je veux dire, on marchait dans la rue, les rideaux de fer étaient tirés. Donc, c'était ce qui était extraordinaire, c'était une ville qu'on connaissait et une ville étrangère en même temps. Et ça, les deux choses étaient très... très très troublante, que tout était familier, je savais tout, je connais bien sûr mètre après mètre, en même temps le marché fermé, plus rien ne ressemblait à ce que je connaissais. Mais je peux pas dire que ça m'ait empêché d'écrire, mais non plus ça m'a pas motivée comme une dingue. Mais ça m'a beaucoup donné envie de lire. J'ai beaucoup lu. Mmh. Oui. Ou relu, ou c'était il y avait un côté le côté pascalien, rester dans sa chambre, mm-hmm. qui sans interruption presque, qui je trouve favorise la lecture.
Tout à fait. Parmi d'ailleurs les auteurs et les personnages que vous connaissez bien et qui font plusieurs apparitions dans ces chroniques, il y a Sade et Casanova, qui eux-mêmes incarnent chacun, je pense, un esprit de liberté qui est très spécifique à l'un ou à l'autre.
Ah oui, pas du tout le même.
Exactement.
Sade... Sade, il m'apparaît comme un homme de la transgression, ou comme un penseur de la transgression, et en tant qu'homme, comme le prisonnier par excellence, puisque toute sa vie, il l'a passé en prison, presque. Et ce qui maintenant ce qui m'a donné envie d'écrire une chronique sur Sade, c'était d'abord c'était en 2014, je crois que c'était le bicentenaire de sa naissance, de sa mort, pardon. Et ça m'a frappé de, j'ai relu des éléments de sa correspondance et de voir à quel point non seulement il n'avait pas reculer, renoncer à ses idées directrices, mais même comment le châtiment, comme il dit, a encore renforcé ses convictions. Et c'est des convictions d'écrivain, c'est pas des convictions, c'est pas des questions de comportement qu'il défend à ce moment-là. Il défend ce qu'il écrit, ce qu'il a envie d'écrire, les fantasmes, et quand il va être libéré. En 1789, il n'est pas tout de suite 1789, il n'est pas tout de suite libéré. Il est transféré de la Bastille à une autre prison parce qu'il est agité. Peu de temps après, il va être à nouveau incarcéré, et là jusqu'à la fin de sa vie, et mis à Charenton. Et cette fois, ça sera d'ailleurs sur dénonciation de son propre éditeur, ça sera pour ses écrits. Donc, ce que je trouve étonnant chez Sade, c'est avoir son orgueil et sa fierté, le fait qu'il ne cède pas, et l'espèce d'univers extrême qu'il a créé et pour lequel il est prêt à tous les sacrifices. C'est ça qui me... Donc, c'est pas du tout... La liberté chez Sade, elle est, et celle qu'il réclame, c'est la liberté d'écrire ce qu'il a en tête, qui dépasse tout ce que n'importe quelle, aucune morale ne peut accepter ça. Donc il est totalement inadmissible, voilà. Mais Casanova, que j'ai découvert après Sade, et je l'ai lu d'abord à New York, et tout de suite. Il m'a charmé, il m'a vraiment plu, mais c'est complètement différent. D'abord, il est unique, Sade. On peut pas dire que Casanova, c'est un écrivain qui est extraordinairement souple et qui vous entraîne dans sa vie. C'est pas un novateur en matière de style, mais c'est quelqu'un qui a un génie d'existence et qui lui, alors la liberté ça a été la règle de toute sa conduite, et il, quand il sera enfermé à la prison des plombs, il s'évade, et après ça lui arrivera d'être enfermé un petit peu pour des histoires souvent de chèques en blanc, des choses comme ça, pas des choses très graves. Il restera jamais en prison après, c'est des courtes trucs. Mais ça lui est arrivé une fois, pas deux. Vous voyez, c'est... Et vivre libre, pour lui, c'était beaucoup voyager. C'est le mouvement. Le mouvement fait partie de ça, son sens de la liberté. Et beaucoup aussi voyager seul. Il adore les rencontres, mais il reste seul. Et après, une fois qu'à cause de l'âge, il se retire, il est obligé de se retirer de ce circuit de voyage et de séduction, comme bibliothécaire, et ben il va la trouver dans l'écriture. Il va recréer tout ce qui a fait l'excitation de sa vie, et ça sera Histoire de ma vie. Donc la liberté, il l'a vécu sous deux modes, quoi. Concrètement, au hasard des expériences, et puis après, en tant qu'écrivain. C'est fort.
Ouais, et c'est effectivement deux visions complètement opposées, quasiment, de l'expression de la liberté.
Oui, oui, oui. Et surtout Sade, quand il était en liberté, parce qu'il a quand même été un peu, pour commencer, il était comme propulsé vers des conduites qui étaient une menace et qui faisaient qu'il allait risquer et finalement être enfermé.
Parmi les autres personnages illustres qu'on va croiser dans vos chroniques, il y a une chronique qui m'a particulièrement interpellée, celle qui, où vous parlez de Descartes et de Voltaire et qui s'appelle « Enseigner les puissants ». Comment ce passage historique résonne pour vous aujourd'hui ?
Oui, alors ça c'est quelque chose dans les innombrables histoires du passé que je trouve très à méditer aujourd'hui. Que à l'époque de Descartes, ils reçoivent des lettres de la princesse, de la reine Christine de Suède, mais aussi de la princesse Élisabeth de Prusse. Donc, il était, et Leibniz aussi, ils avaient des correspondances avec des personnalités royales, avec des empereurs ou des impératrices. C'est quand même extraordinaire. Et des correspondances où ces personnages qui étaient au sommet de la hiérarchie, leur posaient des questions en tant qu'élèves philosophes pour améliorer leur savoir et les aider à résoudre certaines questions de métaphysique. Alors ça, je trouve ça vraiment étonnant maintenant. Bon, je ne veux pas donner d'exemple, mais c'est extraordinaire à penser.
Tout à fait.
Et donc Descartes accepte la proposition de Christine de Suède et il va partir à Stockholm pour lui donner des cours de philosophie. Et ça va mal se passer parce que Christine de Suède, elle est très jeune, elle est hyper douée, mais elle est aussi très autoritaire. Et la méthode de Descartes, qui est d'avancer lentement en se dépouillant de tout savoir scolastique, elle au fond, elle ne la comprend pas. Elle est trop impatiente et elle adore, au contraire, les formules. Donc, ça va mal se passer, d'autant plus que c'est Stockholm. Elle lui donne rendez-vous à 5 heures du matin ou quelque chose comme ça.
Oui.
Il prend froid et il meurt. Et Descartes, Diderot va être invité par Catherine de Russie. Et ça se passe mieux au sens où il en revient d'abord.
Oui.
Et Catherine de Russie elle est certainement une auditrice plus en accord avec Diderot. D'abord, elle le connaît mieux déjà. Elle avait plus lu, peut-être que. Mais c'est quand même une expérience dure. Parce que Diderot, tout au long de son séjour, voudrait changer Catherine de Russie. Il voudrait qu'elle prenne au moins quelques notions de la démocratie. Or, c'est tout sauf ça qu'elle veut entendre. Donc, ça, c'est un échec. Et il voudrait aussi qu'elle soutienne son entreprise encyclopédique, et ça, elle le fait. Donc, c'est pas un échec en ce sens. Mais quand même, c'est toujours des relations très ambiguës, parce qu'ils sont à la fois accueillis et célébrés comme de grands philosophes, donc avec respect. Et en même temps, ils restent quand même des serviteurs. Et ça sera vrai aussi avec Voltaire et Frédéric de Prusse. C'est la même histoire.
Tout à fait. Un tout autre sujet, mais quelque chose qui, je trouve, revient aussi beaucoup dans ces chroniques et qui m'a frappée, c'est l'occurrence de la fête. Il y a plusieurs chroniques où vous parlez de jours de fête, que ce soit le Nouvel An en Asie, en Chine, un peu au Japon aussi, une journée aussi de la parade de la Saint-Patrick à New York. Et vous évoquez aussi à un moment Barthes qui, dans une boîte de nuit, je crois, à New York.
Oui.
Et
ici à Paris,
et Hemingway qui ne voulait pas d'une existence dépourvue de toute chance de fête. Qu'est-ce qui vous touche ou vous frappe dans les jours de fête? Est-ce que vous-même vous avez une âme festive?
Oui, enfin, s'il y a une possibilité de fête, oui, je suis toujours ravie. Organiser des fêtes, ou c'est pas du tout mon truc, c'est-à-dire, oui, j'aime les fêtes où je passe au fond. Et, mais ça peut être des fêtes aussi, ou arriver dans une ambiance de fête. En effet, là, arriver dans une ville en fête, ou... J'aime bien les gestes rituels qui montrent qu'un moment est important. Mais la fête, par exemple, la fête, Paris est une... Pour Hemingway, je pensais à Paris est une fête, vous voyez.
Bien sûr.
La fête, comme il l'entend dans Paris est une fête, c'est le plaisir de s'arrêter dans un café, prendre des huîtres après, et du vin blanc après avoir passé la journée à écrire, ou bien remonter la rue Mouffetard, ou traverser le Luxembourg, regarder les statues. C'est des instants festifs, invisibles de l'extérieur. C'est pas des fêtes fracassantes. Mais il y a aussi des fêtes spectaculaires, et ça peut être extraordinaire quelquefois. Mais je parle aussi des fêtes que donnait Louis XIV et du regard de la princesse Palatine, sa belle-sœur, là-dessus. Et ça, je trouve que c'est très, très beau. Parce que ça, c'est des fêtes liées au pouvoir. Et évidemment, elles sont hyper fastueuses. C'est des feux d'artifice qui durent des jours, des mascarades, tout le parc illuminé. Donc, j'imagine que ça doit être extraordinaire. Mais elle dit quelque chose, la princesse Palatine, elle dit qu'il faut avoir le cœur joyeux et ne pas se sentir forcé. Et dans les fêtes, il y a quelquefois ça, je trouve. L'obligation d'être joyeux. Et si on sent ça, alors la fête...
Elle n'a plus de sens.
Elle n'a plus de sens. Mais ce qui est beau dans la fête, c'est à la fois l'exception et puis quelquefois quelque chose de fragile.
Oui, parce qu'un jour de fête, il est voué à passer.
Voilà, voilà.
L'autre chose qui, de toute façon, a toujours traversé votre œuvre, c'est les lieux. Évidemment, les cafés, on en parle beaucoup, mais surtout les villes qu'on va retrouver à travers différentes chroniques. Alors évidemment, Arcachon, Bordeaux, Paris, Zurich, Montréal, New York, entre autres. À quel point ces chroniques et donc ces lieux constituent une carte géographique intime, quasiment une map monde autobiographique.
Alors, vous savez, en l'écrivant, vous savez, évidemment, je ne pensais pas une seconde. C'est maintenant que tous les textes sont réunis que je vois que ça dessine une sorte d'idéogramme de mes différents parcours. Et je me reconnais, bien sûr, dans certains lieux, parce que non seulement j'y retourne, mais... Alors, tout à l'heure, on parlait du confinement, mais savoir que c'est pas possible maintenant d'aller à New York, par exemple, ça, c'est pénible. Ce que le confinement a mis en relief, c'est à quel point on tenait à certains lieux, à certains pays, à certaines émotions de dépaysement. Ça oui, c'était important dans la tête, dans nos têtes, je trouve. Mais oui, ça dessine la géographie à la fois de lieux d'où je viens, comme le sud-ouest. Et c'est en réunissant ces pages que j'ai vu ils sont différents des autres. Ils sont... je ne les regarde pas du même point de vue. Je ne les regarde pas de l'extérieur. Je les regarde de l'intérieur, d'une certaine façon. Et puis ceux que j'ai adoptés. Et en particulier New York. Et je crois aussi que... les lieux à partir de quels on a écrit font plus, comme les rêves, font partie de vous. D'avoir écrit East Village Blues, alors que je regardais des carnets hier, avant-hier, et j'ai beaucoup de notes depuis très longtemps sur New York. Mais d'avoir écrit un livre entier avec des photographies sur cette expérience et d'avoir réinventé cette expérience fait que je me la suis appropriée. Elle est devenue moi. C'est pas un événement de mon existence parmi d'autres, c'est quelque chose qui me constitue et qui à chaque fois que j'y pense me redonne envie me redonne envie que ça recommence ou d'y retourner.
Vous avez dit que vous voyiez les lieux comme les personnages. Et quand vous écrivez notamment des romans, vous traitez-vous les lieux de la même manière que vous traitez vos personnages ?
D'une certaine façon, oui. Je crois, par exemple, dans les trois romans que j'ai écrits qui se passent au XVIIIe siècle, à chaque fois, Versailles est essentiel. Tout se joue par rapport à Versailles. Et j'ai mis plus de temps à lire sur Versailles, à y passer du temps, à me représenter les strates successives du changement du château. J'ai mis plus de temps à pouvoir incarner que Versailles soit un lieu vivant, plus de temps à ça qu'à donner vie au personnage. Ça a d'abord été Versailles. Et jusqu'à ce que Versailles soit pas un endroit parfaitement ouvert à mes déambulations, à mes phrases, en fait, il y avait quelque chose d'un peu mort. Et c'est quand Versailles a surgi dans toute sa complexité, c'est un recel de mystères, d'intrigues, c'est labyrinthique, et que ça s'est animé. Et chaque livre, bon, Les Adieux à la Reine, c'est évident, c'est quitter Versailles, tout d'un coup voir Versailles vide, mais le Testament d'Olympe aussi, c'est l'enjeu pour cette jeune prostituée, enfin, oui, qui est reléguée au parc aux cerfs, juste à côté de Versailles, à l'endroit où Louis XV tenait ses jeunes filles. Elle veut être dans Versailles. Versailles est comme la forteresse impossible de son acceptation par Louis XV. L'échange des princesses, c'est pareil. Ça se joue énormément entre les Tuileries, où le petit Louis XV est transporté après que Versailles soit fermé, après la mort de Louis XIV, et Versailles, qui vont tous les deux occuper. Et c'était extraordinaire, voyez, parce que je suis allée à Versailles plusieurs fois. Et donc la chambre de la reine, je l'avais d'abord, c'était la chambre de Marie-Antoinette pour moi. Et telle qu'elle est d'ailleurs maintenant, c'est la chambre de Marie-Antoinette actuellement. C'est ça qu'on visite. Mais quand j'y suis retournée pour l'échange des princesses, c'était la chambre de la petite fille, Marie-Anne-Victoire. C'est fou, non ? Et même on a retrouvé le petit escalier de bois, le petit escabeau qu'on avait construit pour elle, pour qu'elle puisse monter sur le lit. Et là, la chambre du roi, donc maintenant, c'était Louis XVI maintenant, mais à ce moment-là, c'était la chambre du petit Louis XV. Donc le château de Versailles, c'est une mine, c'est absolument infini, les histoires liées à Versailles. Donc ça, c'est vrai pour... c'est Versailles qui... Mais pour les textes autobiographiques ou inspirés de l'autobiographie, c'est évident que c'est le bassin d'Arcachon. C'est sûr. Et ensuite, dans les deux autres lieux, évidemment, il y a Paris et New York.
Il y a un autre lieu que vous évoquez vers la fin du recueil, dans une chronique intitulée « Magie de Malagar ». En quoi, je crois que vous avez visité plusieurs maisons d'écrivains, et en quoi Malagar est particulièrement une maison d'écrivains et particulièrement un lieu magique en tant que maison d'écrivains ?
Alors Malagar m'a sidérée. J'ai trouvé que c'était dans les lieux les plus beaux, même les plus beaux du monde. Alors ça m'a paru une vraie maison d'écrivains. D'abord parce que j'avais en tête les textes du journal de Mauriac, et où c'est dans les plus belles choses qu'il ait écrites, Malaga, tout ce qui touche à Malaga. Et ça m'a paru une maison d'écrivain parce que c'était très facile de le voir. Tout est resté à peu près en état, donc c'était très facile de le voir écrire, et aussi parce que tellement de ses textes, enfin presque tout, est imprégné de, peut-être pas de la maison exactement, mais du paysage, des landes, du printemps, de la tristesse de devoir quitter, même enfant, quand il parle de lui, enfant, la tristesse de devoir quitter la propriété des landes pour aller au pensionnat. Dire Mauriac, il est cet endroit, il est. C'est pourquoi cette maison, elle est pour moi le comble de la maison d'écrivain, puisque toute l'écriture de Mauriac tient à ce lieu. Et c'est aussi là qu'il écrivait le plus, puisque mieux qu'à Paris. Mais j'ai visité d'autres maisons d'écrivains, mais par exemple Rousseau, j'ai pas pensé une seconde maison d'écrivain, parce que il y allait au Charmettes, près de Chambéry, il y va avant de devenir écrivain. Donc c'est devenu une maison d'écrivain les pages sur les Charmettes sont magnifiques, mais c'est un moment de sa vie, c'est pas comme pour Mauriac, la continuité même de son existence. Non, Malagar est c'est exceptionnel. J'ai visité un certain nombre de maisons d'écrivain, mais pas tant que ça.
Oui, vous évoquez celle de Rousseau dans la chronique.
Oui,
et il y en a pas d'autres. Ouais. Mais toujours avec dans cette chronique autour de François Mauriac, vous évoquez le fait qu'il distingue deux types d'écrivains. Presque deux races, ceux qui sont du côté de l'art des villes et ceux qui se situent du côté de l'art des champs. Une ligne de partage radicale, entre parenthèses, vous dites, notons qu'il ne mentionne pas un troisième type, l'art de la mer.
Mais non.
À quel type vous pensez appartenir, selon Mauriac ?
Pour moi, c'est sûr. C'est le type qu'il a oublié de mentionner. Mais c'est très intéressant parce qu'il l'appelait la maison des champs, sa maison des champs, Malagar. Et c'est vrai qu'elle ouvre sur les vignes, il y a côté champêtre, absolument délicieux. Et lui se sentait terrien, il se sentait absolument du côté de la terre, de la propriété et de l'enracinement. Et Paris, où il était quand même très à l'aise, et dans le milieu littéraire, pareil, c'était quand même à chaque fois pour lui une épreuve. Et en tous les cas, pas quelque chose qu'il aimait profondément. Donc il se sentait entièrement du côté, oui, de Malagar, du côté des champs, un écrivain des champs, de la nature. Mmh. Et il y a des écrivains qui sont entièrement liés à la ville. Mmh. Entièrement. Et pour qui la nature est une excursion fantasque. Mais, curieusement, il ne dit pas les écrivains de la mer, parce que c'est une autre catégorie. C'est des gens... pour qui les champs peuvent être plaisants, mais pas vous inspirer beaucoup. Et la ville, carrément pénible. Il y a des écrivains pour qui c'est pénible. Ce n'est pas mon cas, mais...
Non, parce que c'est ça.
Pas du tout.
Vous pourriez aussi, je pense à votre dernier texte, à East Village Blues, c'est un livre...
Ah oui,
c'est de l'art de la ville.
Oui, j'adore les villes. J'adore les villes. Mm. Je trouve qu'il y a... dans les villes, une espèce de musique tonique qui vous saisit. Et j'aime vraiment les deux. J'aime vraiment la solitude. Par exemple, j'adorais, quand j'habitais à Arcachon, le moment où les touristes partent et où à nouveau les plages sont vides, le début de l'automne, les autres parfums de feuilles mouillées. J'adorais ce moment. Mais ça m'a absolument jamais empêché d'aimer entièrement New York en plein été.
Dans l'avant-dernière chronique, qui est intitulée « Nos livres de chevet », vous évoquez Patti Smith et sa découverte d'Arthur Rimbaud. Et vous dites « Les livres de chevet qui nous sauvent ». Alors, quel est le livre dont vous pourriez dire « Il m'a sauvé » ?
Ah oui, mais cette phrase, en fait, c'est une phrase de Mona Ozouf qui parle des livres de chevet et qui dit... que ce sont des livres qui s'ouvrent d'eux-mêmes au moment d'une insomnie, c'est beau, et qui nous sauvent donc. Alors, ça dépend tellement des moments. Mm-hmm. Moi, je n'ai pas de livre de chevet comme ça depuis toujours. Ça change au fur et à mesure de mon existence. Mais il y en a deux, trois que je relis et qui reviennent toujours. C'est « Les promenades d'un rêveur solitaire »,« Les rêveries d'un promeneur solitaire ». Et puis, Colette, ça alors depuis toujours, depuis Claudine à l'école, que j'ai lu quand j'avais l'âge de Claudine, donc dans une sorte d'effet de miroir. Donc Colette, de bout en bout, et ça, pendant le confinement, je l'ai relu aussi. Donc, si j'avais un livre de, si je devais donner un livre de chevet, c'est Colette. Mais comme on disait au début, Nicolas Bouvier, depuis quelques années, m'accompagne aussi de très très près. Mais c'est récent. À un moment, c'était Casanova, Histoire de ma vie, que je lisais et relisais. Mais j'ai aussi adoré certains livres de Crébillon. Il y a eu un moment où j'étais beaucoup plus dans la littérature du 18e que maintenant. Et quand j'ai écrit East Village Blues, c'est Sur la route, qui avait été aussi mon livre de chevet quand j'avais 17 ans. Les livres de chevet, c'est... Il y a un moment où ils vous illuminent, après on peut les oublier, et puis ils reviennent. Mais il y a des personnes qui, au contraire, ont vraiment une petite bibliothèque comme ça, fixe.
D'ailleurs, vous ponctuez la fin de l'ouvrage par un chapitre que vous intitulez « Horizon de lecture » où vous regroupez la plupart des livres que vous évoquez à travers les chroniques. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses références littéraires dans ces chroniques. Est-ce que finalement, ce recueil de chroniques, ce ne serait pas une sorte de guide de voyage, l'accompagnateur d'un parcours de vie ?
Oh ben j'adorerais que ce soit ça. Vraiment, j'espère que c'est... Oui, c'est un peu ça, oui. Et j'espère aussi que c'est un livre qui joue un peu comme une sorte de déclic pour traverser la rue et regarder le monde sous un autre angle, ou bien se dire qu'on a envie depuis longtemps de quelque chose et on ne le fait pas, et puis le faire.
Merci beaucoup Chantal Thomas pour cette invitation au voyage et à la pause. Donc ces merveilleuses chroniques, Café Vivre, Chroniques en passant, édité au Seuil. Merci beaucoup.
Merci.